le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Et tout de suite, on retrouve Adèle pour un édito politique. C'est la petite nouveauté du GRA cette année. Bonjour Adèle.
Bonjour.
Alors, pourquoi plus de 15 jours après les faits, on continuait à parler de l'incendie de Lubrizol ?
Alors, d'abord, c'est un incendie qui a frappé par son ampleur. Le feu s'est déclaré à l'usine Lubrizol dans la nuit du jeudi 26 septembre vers 2h40 et a été maîtrisé seulement 8 heures après le début de l'incendie. On a tous vu l'immense nuage noir qui s'est répandu au-dessus de Rouen et dont les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est un incendie qui n'a fait aucune victime directe. Contrairement par exemple à la catastrophe de l'usine AZF près de Toulouse en 2001 qui avait fait 31 morts. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on continue à parler de cet incendie ? Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de personnes touchées par un simple accident de site industriel. En plus de Rouen, 12 municipalités ont été visées par la mesure de confinement, c'est-à-dire 175 000 personnes environ. Et pourtant, ça c'est l'estimation basse. La métropole rouennaise compte près de 500 000 habitants, et on peut largement supposer que la fumée ne s'est pas arrêtée aux frontières des 13 communes confinées.
Alors certes, ça fait beaucoup de monde, mais s'il n'y a pas eu de victimes, c'est quoi le problème ?
D'une part, ce qui a posé problème aux habitants, c'est le manque de transparence de la part des autorités sur la réalité de la catastrophe. Quand les Rouennais voyaient le nuage noir s'épaissir et progresser sur l'ensemble de l'agglomération, le préfet annonçait qu'il n'y avait pas de toxicité aiguë sur les particules visées. Observez. Pourtant, ce sont près de 5000 tonnes de produits chimiques qui ont brûlé, et, comme le disent les spécialistes, le plus dangereux dans cet incendie, c'est les effets du cocktail de tous ces produits. Dont on est encore aujourd'hui loin d'évaluer les conséquences sur la santé et l'environnement. Cet incendie montre à quel point les autorités elles-mêmes sont démunies, malgré tous les protocoles qui existent, pour gérer ce genre de crise, et à quel point l'honnêteté vis-à-vis des populations est loin d'être une priorité. D'ailleurs, le Sénat a créé aujourd'hui une commission d'enquête pour, je cite, « évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine Lubrizol ».
Ok, alors il y a l'air d'avoir eu une mauvaise gestion, mais même s'il y a eu une mauvaise gestion, c'est pas plutôt en amont qu'on devrait regarder du côté des normes, par exemple, qui seraient pas suffisantes ?
Effectivement. Par exemple, la préfecture de Seine-Maritime a donné son feu vert à Lubrizol en janvier, puis en juin, pour deux demandes d'extension de ses capacités de stockage de produits dangereux, sans les soumettre à une évaluation des risques avant. Donc on voit qu'il y a un réel problème. Plus généralement, plusieurs spécialistes constatent une régression de la législation envers les entreprises qui utilisent et produisent des matières toxiques. En 2018, la loi ESSOC est passée, qui permet au préfet d'autoriser une entreprise à modifier le statut de son établissement sans passer par une autorité environnementale indépendante et une étude d'impact, ce qui serait par exemple obligatoire s'il s'était agi d'une création d'entreprise. De même, on peut noter que le nombre d'inspections de sites a chuté. En 2006, 30 000 inspections ont été réalisées, et en 2018, alors que le nombre de sites est resté le même, seulement 18 196 inspections ont été réalisées, c'est-à-dire quasiment la moitié.
Alors d'accord, tu m'as convaincu, il y a un souci dans la baisse d'exigence des normes, mais c'est quand même l'entreprise qui reste responsable de tout ça, non ?
Oui, évidemment.
Oui, c'est sûr.
Ce site est classé Seveso, seuil haut, depuis 2009. Avant, il était classé seuil bas. L'usine fabrique et commercialise depuis 1954 des additifs pour enrichir les huiles, les carburants et les peintures industrielles. C'est évident qu'elle requiert une vigilance et des aménagements particuliers. Pourtant, il y avait déjà eu une fuite en 2013 d'un gaz nauséabond et toxique, le mercaptane. Celui-ci avait été senti en région parisienne et jusque dans le sud de l'Angleterre. Ça montre l'ampleur. Et la seule mesure de rétorsion prise avait été une amende de 4000 euros pour Lubrizol. De même, en 2015, 2000 litres d'huile minérale avaient été déversés dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, occasionnant une pollution environnementale clairement non négligeable. Et le préfet a assuré jeudi que si aujourd'hui l'usine était aux normes, en 2019, elle ne l'a pas toujours été, et en 2017, elle a fait l'objet d'une mise en demeure en raison de 17 manquements, puis que la mise à niveau a été réalisée. Ça montre bien à quel point cet événement n'est pas anodin et s'inscrit dans une suite de manquements à la législation. Pourtant, cette usine appartient au groupe Lubrizol Corporation, la propriété du holding Berkshire Hathaway, elle-même possédée par Warren Buffett, c'est-à-dire le troisième homme le plus riche du monde. Donc on peut pas dire que l'entreprise n'avait pas les moyens financiers d'éviter toute cette catastrophe, contrairement par exemple aux agriculteurs normands qui vont devoir en payer le prix du fait de la pollution de leur culture qu'ils ont pour le moment ordre de ne pas récolter. Et si l'État leur a promis une certaine aide, c'est l'argent public qu'il fournira et clairement pas celui de l'entreprise responsable.
Merci Adèle pour cet éclairage.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Et tout de suite, c'est l'heure de la notion pourrie qui revient pour cette rentrée.